Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
RMC, Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. On va aller sur les bords de la Garonne dès le début de ce journal ce matin sur RMC. Pourquoi ? Parce que le sud-ouest est encore en alerte. Les pompiers redoutent une remontée rapide de la Garonne qui coupe du monde encore certains villages ce matin, vous verrez. L'ultra-gauche pointait du doigt donc après la mort d'un militant nationaliste à Lyon la semaine dernière. Le parquet doit prendre la parole dans la journée. Et nous irons aux Jeux Olympiques 2000 en Cortina sur RMC, radio officielle, où on attend beaucoup des Français ce matin dans l'épreuve du slalom en ski alpin.
On se croirait à l'océan, voilà ce que dit le maire d'une petite ville inondée dans le sud-ouest.
Oui, tellement l'eau s'étend dans les champs en bordure de Garonne. Lucas Laubert, vous confirmez, vous êtes en direct de Langon ce matin pour RMC. C'est entre Bordeaux et Agen où la Garonne déborde, comme dans beaucoup de villes et villages où elle passe. Lucas, vous nous dites que c'est toute une partie de Langon qui est inondée.
Oui, les bords de Garonne sont tout simplement méconnaissables. Les caisses sont entièrement sous l'eau. Les panneaux de signalisation presque totalement submergés. Le fleuve pointe ce matin à 9,70 m à Langon. Une habitante me confie n'avoir jamais vu ça depuis la crue de 1981. De nombreuses maisons sont totalement inondées. Presque 2 mètres d'eau dans certaines d'entre elles. La galère sur les routes aussi. Ponts coupés, routes barrées. J'en ai fait l'expérience ce matin. Presque une heure de détour simplement pour traverser le fleuve. De petits embouteillages se forment même dans certains villages avec les nombreux automobilistes désorientés. Et tout cela ne semble pas près de s'arranger puisque depuis hier et encore en ce moment sous mes yeux, la pluie tombe sans discontinuer. Vigicru prévient, si un petit pic a été atteint hier, l'eau va reprendre sa montée.
Lucas Laubert en direct de Langon ce matin pour RMC. Ce matin, il y a la préfecture de Gironde qui met en garde contre les intoxications au monoxyde de carbone avec les utilisations d'appareils à combustion comme les groupes électrogènes ou les chauffages d'appoint. Et il y a l'eau qui monte aussi à Paris. Une partie des quais est fermée depuis hier soir dans la capitale, la Seine étant 2 à 3 fois plus élevée que d'habitude selon les derniers relevés de Vigicru. À Lyon, l'ultra-gauche est donc montrée du doigt après la mort du jeune militant nationaliste de 23 ans prénommé Quentin Rouillet-Lecoux jeudi dernier dans des affrontements en marge d'une conférence à laquelle était conviée l'eurodéputée insoumise Rima Hassan. L'ultra-gauche est manifestement à la manœuvre, voilà ce que disait hier soir le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, comme l'avait dit un peu plus tôt dans la journée le ministre de la Justice Gérald Darmanin. Julie Brault, vous êtes en direct de Lyon pour RMC ce matin, où le procureur va faire un point sur l'enquête dans la journée pour peut-être donc lever les zones d'ombre.
Oui, un point presse très attendu à partir de 15h cet après-midi, au cours duquel le procureur devrait notamment détailler les témoignages significatifs recueillis par les enquêteurs ces derniers jours. Témoignages qui pourraient permettre, je cite, l'identification des auteurs directs des violences. En parallèle, grâce à l'analyse de la téléphonie et des caméras de vidéosurveillance, les enquêteurs ont pu retracer l'enchaînement des faits. Et d'abord, un premier affrontement à proximité de Sciences Po entre une quarantaine de jeunes de l'ultra-gauche et de l'ultra-droite. Et puis, dans une ruelle à quelques mètres de là, un lynchage en règle contre 3 jeunes militants nationalistes identitaires par une quinzaine de membres de l'autre camp, des jeunes cagoulés et masqués qui ont violemment frappé Quentin à coups de pied dans la tête, comme l'atteste une vidéo témoin identifiée par la police. Et des images qui devraient permettre de remonter rapidement jusqu'aux auteurs de ces violences, identifiés par l'extrême droite comme des membres du groupe antifasciste La Jeune Garde, dissous en juin 2025. Une thèse qui, à ce stade, n'a pas été confirmée par le parquet de Lyon.
Julie Brault du service police-justice à RMC. La France insoumise hein, qui est mise en cause par la droite et l'extrême droite assure qu'elle n'a rien à voir avec cette histoire. Mais ce matin, Raphaël Glucksmann du mouvement Place Publique dit qu'il est, je cite, « impensable que la gauche cultive le moindre doute sur une alliance avec la France insoumise ». Voilà pour les conséquences politiques. On parlait du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Il sera en Algérie aujourd'hui et demain. Un déplacement de 2 jours, Thomas Becker du service politique à RMC, sur fond de tensions diplomatiques entre les deux pays.
Oui, Laurent Nunez veut déjà renouer le dialogue avec l'Algérie. Dans son entourage, voilà ce que l'on dit sur la situation que le ministre a trouvée à son arrivée en septembre. Aucun contact entre les deux pays. Tout était bloqué, une manière de se démarquer de la méthode du bras de fer engagée par Bruno Retailleau. Depuis des semaines, Laurent Nunez intime à ses services de reprendre les échanges avec leurs homologues algériens sur 2 dossiers sensibles, le terrorisme et la lutte contre le narcotrafic. À Alger, il sera bien question du retour en Algérie des ressortissants en situation irrégulière sur le sol français, mais le ministère de l'Intérieur se garde bien de fixer des objectifs chiffrés. Enfin, le cas de Christophe Glaize, journaliste emprisonné dont la France réclame la libération, sera bien évoqué, mais là aussi, Beauvau prévient, il se peut que la visite n'aboutisse à rien.
Les débats sur la fin de vie et plus précisément ceux sur l'aide à mourir reprennent aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le texte est de retour après son rejet au Sénat fin janvier. Autre thématique qui sera évoquée aujourd'hui, c'est cette proposition de loi des députés Ensemble, soutenue par le Bloc central et la droite, pour permettre aux commerçants d'utiliser l'intelligence artificielle dans leur lutte contre les vols. Et comment ? Eh bien, via un système de vidéosurveillance qui repère les gestes suspects des clients, grâce donc à l'intelligence artificielle. Entre 2 et 3 000 magasins en sont déjà équipés, mais il existe un flou juridique et l'idée est donc de le combler. Voilà à quoi ça ressemble ce système avec Célestin Bougère pour RMC.
Au fond de sa supérette, dans une petite salle fermée, la co-gérante a les yeux rivés sur les vidéos de surveillance.
Récemment, il y avait des jeunes qui sont venus, ils ont vidé carrément le rayon café.
Vous savez à peu près combien ça représente de pertes pour le magasin, ce genre de vol ?
C'était 800-900 euros.
Par mois, vous savez à peu près, vous avez des chiffres.
Ça atteint les 5000 euros par mois, 4000-5000 euros par mois.
L'aide de l'intelligence artificielle serait la bienvenue pour elle. Michel Mantelet tient lui un magasin à Cherbourg. Il a installé il y a 3 ans déjà un système de ce type sur ses caméras de surveillance.
J'ai une application en parallèle qui est sur mon téléphone. Quand l'IA détecte des gestes ou des postures ou des mouvements potentiellement de vol, je reçois des alertes. Le mois dernier, ça nous a permis de récupérer à peu près 300 euros de marchandises qui auraient été volées.
À gauche, les députés craignent de potentielles atteintes à la vie privée. À la sortie de cette supérette parisienne, Hubert est partagé.
Ça fait flipper, c'est normal, c'est la technologie. Après, si c'est pour éviter de mettre quelque chose dans ta poche et de ressortir avec, je trouve que c'est bien. Si les commerçants ils se sentent plus à l'aise, moi ça m'impactera pas.
Certains commerçants disent ne pas avoir encore sauté le pas de l'IA à cause du prix et du manque de précision de ces équipements.
C'est la deuxième semaine qui commence aux Jeux Olympiques.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques de Milan-Cortina.
Et ça commence fort avec ce matin le slalom en ski alpin dans la station de Bormio. On vous y retrouve en direct, Léna Marjac, en direct sur place pour RMC. Les Français brillent cette saison dans cette discipline, alors forcément on les attend au rendez-vous.
Oui, 7 podiums cette saison en Coupe du Monde pour nos slalomeurs français, dont 3 victoires. Donc évidemment, nos tricolores sont attendus, notamment Clément Noël, le champion olympique en titre de la discipline. Alors il s'élancera avec le dossard 4, comme en 2022 quand il s'était imposé à Pékin. On espère que ce numéro lui portera chance. Et la France peut compter aussi sur Paco Rassa, 27 ans, premier Jeux Olympiques, mais double vainqueur en Coupe du Monde cette année. Donc il arrive en pleine confiance. Et enfin, Steven Amier et Léo Anguenaud viennent compléter la liste de départ du slalom. Le ski alpin tricolore compte une seule médaille dans ces Jeux Olympiques avec l'argent de Roman Miradoli. C'est donc la dernière opportunité pour les hommes du ski alpin d'ouvrir leur compteur de médailles. Et pour ça, il faudra le faire sous la neige, ici à Bormio.
Léna Marjac en direct de Bormio, donc pour RMC. La France en est à 15 médailles, record égalé. Il y en a 4 en or, dont celle des danseurs sur glace, Guillaume Cizeron, Laurence Fournier-Baudry, qui seront les invités exceptionnels du Super Moscato Show cet après-midi à 15h sur RMC. Nul doute qu'ils reviendront dans le Moscato Show sur la belle victoire des Bleus du rugby, 54-12 au Pays de Galles hier, deuxième match du tournoi Destination. En attendant de les revoir contre l'Italie, ce sera dimanche. Les Bleus disent qu'ils refusent de parler du grand chelem, mais évidemment, on a le droit de ne pas les croire.
C'était le journal de Quentin Vinelli, 8h09. On va parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel Lechypre. Emmanuel, est-ce qu'on peut commencer à évaluer les conséquences économiques de ces catastrophes climatiques qui sont enchaînées depuis le début de l'année ?
Alors, il y a d'abord le coût des destructions qui seront indemnisées par les assureurs, les dégâts sur les maisons, les magasins, les locaux d'entreprise, le mobilier urbain ou les espaces publics. Et la facture va être très élevée. Jamais les météorologues n'ont enregistré autant de crues sur une aussi longue période, jusqu'à 80 départements, plus de 150 rivières. Jamais les sols n'ont été aussi humides. Ajoutez à ça la tempête Niels. En gros, la France revit depuis janvier le même cauchemar que lors des inondations de 2016, mais sur une échelle 2 fois plus grande, et que lors de la tempête Domingos de novembre 2003. Les premières projections tournent donc au bas mot autour de 2,5 de 2023, oui. C'est pas ce que j'ai dit.
Je crois que vous aviez dit 2003, mais...
N'importe quoi. Les premières estimations tournent au bas mot autour de 2,5 à 3 milliards d'euros, donc pour ce début d'année, avec au moins 250 000 foyers sinistrés, sachant que les indemnisations pour inondations, c'est en moyenne entre 10 000 et 14 000 euros par sinistre.
Donc ça, c'est les dégâts, mais il y a aussi l'impact sur l'activité économique.
Oui. Et là, ce sont les pertes d'activité pour les entreprises, hein, les usines paralysées, les livraisons qu'on ne peut pas effectuer, les surfaces agricoles qu'on ne pourra pas utiliser et cultiver, les loisirs qu'on ne peut pas pratiquer, les commerces qu'on ne peut pas fréquenter. À ce stade, on peut l'évaluer, cet impact, à au moins 0,1 point de PIB national. Le problème, c'est que si ça dure encore plusieurs semaines, eh bien, ça pourrait aller jusqu'à 0,2 point de PIB, soit 3 à 7 milliards de pertes d'activité, sachant que la reconstruction ne sera, elle, que très progressive. Et puis, il faut aussi s'attendre, sans doute, à un impact sur les prix, hein, les matériaux de construction, les produits agricoles. D'habitude, c'est un impact plutôt local, mais là, vu le nombre de départements touchés, ce sera peut-être aussi 0,1 point d'inflation en plus. Donc, moins 0,1 sur la croissance, plus 0,1 sur l'inflation.
Et puis maintenant, si on commence à se projeter sur le prix des assurances?
Alors, il y aura deux effets. Le premier, c'est la hausse moyenne des primes d'assurance. Là, on est sur une trajectoire de 6 à 8% par an et ça va continuer. C'est la dépense contrainte qui augmente le plus. Et puis, le deuxième effet, c'est des écarts de primes croissants entre les régions à risque et les autres régions. Les plus vulnérables, ce sont Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie, Hauts-de-France, la façade atlantique. Ça pourrait même aller jusqu'au refus d'assurance dans certaines zones, particulièrement pour certaines maisons.
Merci, Emmanuel Le Chypre. Il est 8h12.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, Arnaud Demanche nous rejoint comme chaque jour à 8h30. Notez-le, mon invité dans le face-à-face, ce sera la porte-parole du gouvernement, Maude Bréjon. Je l'interrogerai évidemment sur la mort de Quentin, militant nationaliste à Lyon, qui a été lynché à mort par, semble-t-il, des membres de la Jeune Garde ou d'un groupe qui se dit antifasciste. Juste après, il y aura Nicolas Canteloup. Nicolas Canteloup et ses imitations, c'est tous les jours face à Canteloup à 8h50 sur RMC. Il est 8h12, restez bien avec nous.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Et bonjour.
Il est 8h50, de manche, avec
vous. On parlait de la Saint-Valentin, on se demandait, est-ce que vous avez passé une bonne Saint-Valentin tous?
Oui.
C'était la fête de l'amour, vous avez fait des belles soirées en amoureux.
Moi, c'est tous les jours la
c'est
fête de l'amour.
C'est tous les jours, c'est tellement chou.
C'est alors, mignon.
Bon, alors si c'est pas le cas, les amis auditeurs, sachez que ça ne veut pas dire que personne ne vous aime à la Saint-Valentin. Ça veut dire que personne ne vous aime tous les jours de l'année.
Voilà.
Et il faut se remettre en question. C'était beau, il y avait des inondations partout, c'était très pratique pour la Saint-Valentin. Certains sont allés à Venise, et pour d'autres, c'est Venise qui est venue directement à la maison.
Là.
En tout cas, il y en a un qui a pas dû passer une bonne Saint-Valentin, c'est Sturla Holm Lagerheide.
Ah oui, je pensais bien.
Vous savez, c'est le nom d'une table basse Ikea, c'est surtout le nom du biathlète norvégien qui a avoué qu'il avait trompé sa copine devant les caméras du monde entier.
On était j'avais pas son nom.
T'es content de ta médaille, Sturla Holm? Et lui, j'ai trompé ma copine. La pauvre copine, quoi. Estelle Denis, notre collègue, l'a appelé tout de suite la fille en lui disant, t'inquiète Gudrun, je sais ce que tu ressens. Au bout de 15 ans, ça passe. Et il est en larmes à la télé, le type. Ça a changé la Norvège. Enfin, on n'imagine pas les Vikings chialer parce qu'ils ont trompé leur femme pendant un pillage. Oh, je suis un monstre. C'est tellement bizarre d'avoir fait ça. Personne n'était au courant en plus. Il n'y avait rien à assumer. Je veux dire, la vie sexuelle des biathlètes, bon, on s'entend un peu. Quoi. Les histoires de cœur. Bon, qui lui a conseillé de faire ça? Il était en soirée avec ses potes. Qu'est-ce que je peux faire pour reconquérir Gudrun? T'as une idée, Björkensflug?
Tu lui envoies des fleurs.
Non, dis-lui en mondiovision qu'elle est cocu, elle va se sentir valorisée.
Ah ouais, t'as raison, Flick. Quel enfer, le pauvre.
Sans transition, Bruno Retailleau a annoncé sa candidature à la présidentielle.
Sans transition, c'est pas vrai, on reste dans le thème. Amour, orgasme et plaisir, Bruno Retailleau se lance. Lui, c'est un peu le François Fellman de la droite. À un moment, tu ne pouvais pas allumer la radio sans tomber dessus. Et maintenant, tout le monde s'en fout et rigole. Non, mais en plus, pas de chance pour lui. Son annonce de candidature, elle est tombée en même temps que les inondations, donc sur BFM. Bienvenue sur BFM TV. Bruno Retailleau, bonjour. Bonjour, monsieur Darré. Pourquoi j'ai décidé de me présenter à la présidente. Priorité au direct, pardon, je vous coupe, monsieur machin. On part à Montbubon-sur-la-Vierge, où l'eau est montée à 5 cm, rue du Colonel de Saint-Érythème. Lionel Top, vous êtes sur place. Est-ce que vous avez une analyse au top? Parce qu'il y a vraiment un Lionel Top à BFM.
Oui, bien sûr.
Écoutez, Guillaume, oui, je suis à Montbubon-sur-la-Vierge, où la rivière de la Vespasine a inondé les villes de Croutas, Sassuinte, Razon-la-Reine, Tonglen-sur-Ménazeau et Pignol-le-Fermier. Et écoutez, monsieur Darret, est-ce qu'on peut parler de ma candidature à la présidentielle?
Mais vous êtes encore là, vous ? Qu'est-ce que vous faites là ? Alors, son équipe de campagne a publié des visuels tout le week-end. J'en ai vu passer un qui est adorable. Vraiment, c'est un vrai truc. Hein. C'est une photo de Retailleau dans la savane avec un lion. Il a une chemise blanche ouverte et il y a marqué « Je ne mangerai pas des pommes comme Jacques Chirac, mais il faudra manger du lion ». Jamais une élection présidentielle n'aura été aussi importante que celle qui vient. Il y a un tweet qui accompagne cette affiche, c'est marqué « Petit trait d'humour, mais détermination très sérieuse ». Donc voilà, son équipe de campagne, c'est que des puceaux de 48 ans qui sont là.
« Hey les gars, vous venez dîner chez moi demain ? Je vais cuisiner des salsifis et un gratin de chou-fleur. Et ensuite, on cherchera des idées pour Bruno. Hey les mecs, j'ai racheté une affiche de campagne de Valérie Pécresse. On pourra l'embrasser avec la langue parce que j'ai fait un trou au niveau de la bouche. Si, comme ça, on pourra apprendre à rouler des pelles aux filles. Ça va être super.
Quelle campagne. Ça s'annonce.
Oh mon Dieu, Arnaud, une boulangerie d'Île-de-France est citée dans l'affaire Epstein.
Oui, un commerce de Sceaux, dans les Hauts-de-Seine. En fait, Epstein demande des conseils en boulangerie. On lui répond en lui donnant celle-là. Et le type ajoute « Tout est bon, y compris la baguette ». C'est un code, j'imagine. Ça doit être l'enfer, hein. Depuis, pour ce boulanger, tous les pédos d'Île-de-France doivent débarquer chez lui.
Bonjour, je voudrais une baguette pas trop cuite, hein? Pas un vieux crouton, pas trop cuite.
Je vais vous demander de sortir, monsieur.
Bonjour, madame. J'aimerais passer une commande pour l'Institut du Monde Arabe. Est-ce que vous vendez des petits écoliers?
À ce sujet. Le livre de Jack Lang, d'ailleurs, Ma vie avec Mitterrand, ne sortira pas comme prévu au printemps chez Gallimard. C'est des conséquences de l'affaire.
Et c'est tellement dommage. C'est bourré d'anecdotes truculentes, comme la fois où j'ai présenté François Mitterrand à mon ami Epstein. Mitterrand lui avait dit « Voici ma fille cachée, Mazarine ». Et Epstein avait répondu « Ça alors ? Moi aussi j'en ai plein des filles cachées, à la cave, dans le grenier, dans la pool house, attachées au radiateur. Quelle répartie avait cet homme ? Qui aurait pu prédire que derrière ce philanthrope se cachait un tel monstre ? C'est bien simple, s'il n'avait pas été aussi généreux financièrement avec moi, je lui aurais dit ces quatre vérités.
Quel courage il avait, hein ! Allez, à demain.
À demain, Arnaud Demange, comme tous les jours à 7h20 et 8h20.
Détendez-vous sur RMC avec Idrac Business School, une école du réseau compétences et développement.
C'est avec Jean-Paul qui nous appelle au 32-16 depuis la Charente. Bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour Apolline.
Et vous vouliez témoigner parce qu'autour de vous, je crois que la pluie, vous êtes vraiment dans le coin de la Charente, mais vous avez aussi été dans une partie des Landes.
J'ai ma maman qui habite en Chalosse dans les Landes et c'était juste, ça m'a fait un petit peu bondir parce qu'on parle beaucoup à Gironde, inondation et tout ça. Mais il faut savoir qu'une partie des Landes, la Chalosse, il n'y a toujours pas d'électricité depuis vendredi dernier. Hein.
Donc, on a effectivement, et vous l'avez entendu peut-être tout à l'heure, eu Gérald, un auditeur, qui disait qu'il n'avait récupéré l'électricité qu'hier soir. Au moment où on se parle, Jean-Paul, votre mère n'a toujours pas l'électricité ?
Ah non, comme beaucoup de Landais, quoi. Donc voilà.
Non, mais c'est important de le dire. Et en effet, là, pour le coup, c'est pas les inondations, c'est aussi la tempête. Il y a toujours 45 000 foyers.
Hein. Voilà. Ah, et si j'avais juste une autre chose à dire.
Allez-y, Jean-Paul.
Concernant l'hydrologue, ce qui est dommage, c'est qu'il n'aurait pas parlé des retenues collinaires et autres, parce qu'en fait, toute l'eau là qui est en stock partout, eh ben, va disparaître.
C'est-à-dire
Et pour cet été, on n'en aura pas d'eau, si ça se trouve.
Disparaître où ? Vous voulez qu'elle disparaisse ?
Vers la mer.
Oui, effectivement. Alors d'ailleurs, je lui posais la question tout simplement aussi de la sécheresse, mais elle disait qu'il y a quelques années, après des très fortes pluies, il avait suffi de 3 semaines de canicule pour qu'il n'y ait plus d'eau. Vous aviez travaillé sur ce point-là, Mathieu, hein ? Une réponse.
Oui, mais vous parlez des ce qu'on a appelé les grandes bassines, la possibilité de retenir de l'eau pour la garder pour l'été, c'est ça, Jean-Paul ?
Ça c'est très important.
Mais je comprends pas ce que vous dites. C'est-à-dire que vous dites qu'il n'y aura plus cette eau. Pourquoi est-ce que cette eau-là partirait ?
Cette eau, elle va directement aller les fleuves, la mer, et puis en avant, quoi.
Mais donc, on peut la garder, non ?
Non, parce que c'est le débat politique sur les grandes bassines comme à Sainte-Soline.
Excusez-moi. Je ne comprenais pas votre débat politique, mais en effet, ce que vous voulez dire, c'est que les méga bassines qui jusqu'à présent d'ailleurs n'ont pas été autorisées pour la plupart, effectivement, vous voulez dire on aurait dû les garder, les faire, et comme ça, elles auraient gardé l'eau.
Eh ben oui.
C'est voilà, ça y est, merci. Je l'ai, Jean-Paul, je l'ai. Merci beaucoup à vous en tout cas. Et effectivement, Jean-Paul qui voulait appeler aussi pour dire que sa mère n'avait toujours pas d'électricité. Je vous précise qu'il y a toujours 45 000 foyers qui n'ont pas d'électricité. Mais là, c'est dû non pas au cru, mais à la tempête qui a sévi dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. Et ils sont toujours privés d'électricité. Il est 8h23. Dans un instant, mon invité, c'est Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement. Maud Bréjon, que j'interrogerai évidemment sur la mort de Quentin, ce jeune de 23 ans qui a été lynché à mort à Lyon. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Maud Bréjon.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro ce matin pour répondre à mes questions. Vous êtes la porte-parole du gouvernement. Quentin est mort à Lyon. Ce jeune homme de 23 ans a été tabassé à mort en marge de l'avenue de Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Laurent Nunez parle d'un lynchage. Gérald Darmanin parle de discours politiques violents qui amènent à la violence physique. Quelle est votre réaction, vous, ce matin?
D'abord, permettez-moi d'avoir une pensée pour sa famille et pour ses proches. Ce qui s'est passé est évidemment effroyable, résulte en toute vraisemblance d'un affrontement entre l'ultra-gauche et l'ultra-droite. Et donc je reprends les mots de Laurent Nunez, employé ce matin chez vos confrères. Il s'agit de toute évidence d'un lynchage et les images que nous avons toutes et tous vues sont absolument insupportables.
D'un lynchage politique ?
Je laisserai le procureur, vous savez, qui s'exprime
tout à l'heure
cet après-midi sur le sujet et sur cette affaire spécifiquement. La question qui nous est posée à nous, responsables politiques, c'est quels mots on peut employer, quels mots sont acceptables, quels mots ne sont pas acceptables, et qu'est-ce qui, dans nos paroles et dans nos actes, que ce soit à l'Assemblée nationale, lors des meetings, est de nature à encourager cette violence. Parce que le garde des Sceaux a raison. Quand on emploie des mots d'une telle violence, on ne peut pas s'attendre à ce que cette violence-là ne rejaillisse pas potentiellement dans la rue.
Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui a parlé de la France insoumise, il dit il y a une complaisance de la France insoumise pour la violence politique. Et au fond, il estime qu'ils font semblant de ne pas voir que les mots tuent, dit-il.
Faut appeler un chat un chat. La France insoumise encourage depuis des années maintenant un climat de violence. La France insoumise a des liens avérés et assumés avec des groupes d'ultra-gauche extrêmement violents. Je pense par exemple à la Jeune Garde. Jean-Luc Mélenchon, il y a quelques mois, en meeting, expliquait que c'était un mouvement, je cite, lié à la France insoumise et que les membres de la Jeune Garde étaient ses camarades. C'est la France insoumise qui, en 2024, lors des législatives de 2024, a investi et fait élire un membre de la Jeune Garde.
Raphaël Arnaud.
Fichier S. C'est la France insoumise qui, la semaine dernière, le 11 février, dans un communiqué, demandait au gouvernement de revenir sur la dissolution de la Jeune Garde. Il y a donc, vis-à-vis du climat politique, du climat de violence, une responsabilité morale de la France insoumise.
Responsabilité morale évidente. De la France insoumise dans la mort de Quentin.
Une responsabilité morale de la France insoumise dans ce climat de violence exacerbé.
Il y a aussi la question de la responsabilité d'un individu qui aurait, d'après nos confrères de Mediapart, été présent au moment du lynchage du jeune Quentin. Nos confrères de Mediapart parlent de Jacques-Élie Favreau, c'est l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud, le député du Vaucluse La France Insoumise dont vous parlez, lui-même cofondateur du mouvement La Jeune Garde. Jacques-Élie Favreau, donc assistant parlementaire de Raphaël Arnaud, dément être responsable de la mort de Quentin, mais il dit se retirer de ses fonctions le temps de l'enquête. Il y a donc au minimum une proximité entre les militants qui semble-t-il, encore une fois, tout cela devrait être confirmé ou non ce soir, à partir de 15h, par la conférence du procureur. Mais ils disent que les militants qui ont tabassé à mort Quentin, et ça ce sont notamment les amis de Quentin qui l'affirment, seraient des membres de ce groupuscule de la Jeune Garde co-créé par un député LFI. Est-ce que dans ce cas, il faudra des conséquences et lesquelles ?
Il y a des témoignages qui vont dans ce sens. Moi, je laisserai le procureur, encore une fois, en parler cet après-midi. Mais je redis ce que je vous disais tout à l'heure. Lorsque la France insoumise investit un candidat et fait élire un député membre de la Jeune Garde. La Jeune Garde qui est un groupe d'ultra-gauche structuré, organisé autour de la violence, qui dispensait, avant qu'on prononce la dissolution, des formations pour ce type d'organisation. Quel message on envoie ? Quel message on envoie ? Et c'est en ça où je dis que la France insoumise a une responsabilité morale dans le climat ambiant.
Rima Hassan a-t-elle sa place dans une salle de cours d'université ?
C'est aux universités de le dire. Vous savez, moi je crois que derrière la question qui se pose pour nous toutes et tous, citoyens, c'est le choix qu'on fait dans les urnes. Parce que Rima Hassan, quoi qu'on en pense, et je n'ai aucune complaisance envers cette eurodéputée, de par ses propos, de par ce qu'elle véhicule, en particulier sur l'antisémitisme, je n'ai aucune complaisance vis-à-vis de la France insoumise et de ses députés. Mais il et elle ont été élus. Et donc, nous avons, nous, une responsabilité politique, c'est de les combattre dans les urnes. Et nos concitoyens, ceux qui, en tout cas, ont été amenés à voter pour eux, doivent regarder en face ce qu'ils sont réellement, derrière les discours, derrière les insinuations, la façon dont ils sont structurés, les femmes et les hommes qu'ils ont mis en avant. On a une responsabilité, on a tous une responsabilité lorsqu'on glisse un bulletin La France Insoumise dans l'urne.
Il y a la question de l'élection, il y a la question aussi de l'invitation qui a été faite et de l'autorisation qui a été donnée. À l'inverse, le directeur de Sciences Po Paris avait refusé à deux reprises la venue de Rima Hassan à Sciences Po Paris, par crainte, disait-il, de troubles à l'ordre public. Il a dû batailler pour cela. D'abord, le tribunal administratif a refusé son interdiction avant que le Conseil d'État finisse par dire qu'il avait effectivement raison de craindre des troubles à l'ordre public. Et les faits, semble-t-il, lui ont donné raison. Je vous repose la question, est-ce qu'une université doit inviter ou accepter d'inviter Rima Hassan?
On va encore une fois laisser l'enquête se faire, mais enfin, de toute évidence, on voit que lorsque Rima Hassan se déplace, lorsqu'elle s'exprime, notamment dans des universités, ça crée autour de cette expression un climat de violence, avec des forces de l'ordre qui sont mobilisées. Tout ça n'est pas anodin, tout ça n'est pas normal. Et donc, il faut s'interroger sur les invitations qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas.
Raphaël Glucksmann, chez nos confrères d'RTL ce matin, dit « Mélenchon n'ignore rien du discours de guerre de Rima Hassan ». Est-ce que vous considérez aussi aujourd'hui qu'il y a, autour de la personne de Raphaël Arnaud que vous avez mentionné, de la personne de Rima Hassan, un choix particulier comme une forme de provocation à la violence ?
Il y a un choix...
Le mot de guerre utilisé par Raphaël Glucksmann.
Il y a un choix d'encouragement à cette violence, tout du moins dans les mots. On prend l'exemple de Rima Hassan, on prend l'exemple de Raphaël Arnaud, Monsieur Glucksmann a pris, je crois, l'exemple de Thomas Porte. Il y en a d'autres. Ce qui se passe avec la France insoumise n'est pas anodin. Encore une fois, parlons de l'antisémitisme qui est véhiculé depuis notamment le 7 octobre. Enfin, tout ça est extrêmement grave. Et ensuite, j'entends Jean-Luc Mélenchon s'étonner d'être qualifié d'extrême-gauche. Mais enfin...
Donc pour vous, la qualification d'extrême-gauche, puisqu'effectivement c'est concomitant avec le classement qui a été fait et officialisé la semaine dernière par le ministère de l'Intérieur, de LFI désormais classé à l'extrême-gauche.
C'est un parti révolutionnaire, c'est un parti anti-système, c'est un parti qui encourage les groupes ultra-violents et notamment de l'ultra-gauche, c'est un parti qui s'en prend à l'autorité républicaine, qui défile sous les slogans de la police tue. C'est pas la gauche social-démocrate, Apolline de Malherbe, comment est-ce qu'on appelle ça si c'est pas l'extrême-gauche ?
Et pourtant, lors des législatives de 2024, Gabriel Attal, à l'époque Premier ministre, aujourd'hui patron du parti Renaissance, avait appelé à faire barrage au RN, même avec un bulletin LFI. Est-ce que vous referiez la même chose aujourd'hui ?
Alors, d'abord, ma position personnelle a toujours été claire. Dès le lendemain du premier tour des élections législatives, je me suis exprimée avec une parole simple, ni LFI ni RN, et Gabriel Attal a eu l'occasion de s'exprimer sur le choix qui a été le sien. Mais je crois que encore une fois...
A posteriori, vous estimez que votre position était la bonne ?
Ah, j'ai toujours estimé que ma position était la bonne. On ne combat pas un extrême par un autre, on ne combat pas l'extrême droite en promouvant l'extrême gauche, tout simplement.
Donc pour vous, malgré tout, quand on regarde lors des législatives de 2024 et l'appel à faire barrage au RN, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Gabriel Attal dirait la même chose ?
Ah, ça, il faudra lui poser la question.
Je le ferai.
Ah, il faudra lui poser la question. Je suis pas porte-parole.
Mais j'imagine que ces discussions, vous les avez entre vous.
Je suis pas porte-parole de Gabriel Attal. Et Gabriel Attal n'a aucune complaisance avec les valeurs de la France insoumise. Il a toujours été extrêmement clair, encore une fois, sur son rapport à la violence, sur son rapport à l'antisémitisme. Donc, ne laissons pas dire n'importe quoi. Il a fait un choix dans un moment exceptionnel. Je ne partageais pas ce choix, mais il a eu l'occasion de s'en expliquer. Et je crois encore une fois que les valeurs portées par Renaissance, portées par Gabriel Attal, sont extrêmement claires.
Pour les municipales,
pas de mauvais procès.
Pour les municipales qui viennent, vous diriez toujours la même chose. Vous n'appellerez pas.
Je dirais toujours la même chose.
S'il y a des second tours avec d'un côté la France insoumise, de l'autre le RN, vous n'appellerez à voter pour ni l'un ni l'autre.
Mais je ne peut pas combattre le Rassemblement National en faisant la promotion ou en appelant à voter pour un parti avec des relents antisémites et communautaristes. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et puis ensuite, les électeurs sont libres dans l'isoloir.
Maud Bréjon, le plan sur l'énergie a enfin été dévoilé vendredi. Le RN vous accuse un de l'avoir publié sans avoir vraiment consulté l'Assemblée, mais surtout il dit, et c'est Jean-Philippe Tanguy à ce même micro vendredi, qu'il y aura des conséquences sur les factures des Français. Il parle du prix du pétrole, je cite, le prix du pétrole, du gaz va augmenter de 50%.
Alors c'est faux, et les chiffres de M. Tanguy et du Rassemblement National sont bidons. D'abord, quand on veut maîtriser nos coûts, quand on veut maîtriser les factures, on produit chez nous et on maîtrise notre production. À l'inverse, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que 60% de l'énergie qu'on consomme provient effectivement du gaz importé, du gaz algérien, hier du gaz russe, du GNL américain, du pétrole provenant du Moyen-Orient. Ça équivaut à 60 milliards d'euros d'import par an. Ce n'est pas comme ça qu'on protège le pouvoir d'achat des Français. Et ensuite, il y a quelque chose qui est assez curieux dans le discours de Monsieur Tanguy, parce que quand on se prétend souverainiste, quand on prétend défendre la souveraineté de la France, on ne se range pas du côté des grandes puissances qui nous vendent le gaz, qui nous vendent le pétrole et qui en fixent le prix.
Alors, ce qu'il pointe du doigt, c'est aussi la question de l'éolien ou de l'alternative au nucléaire. Est-ce que là-dessus, vous estimez qu'il y aura des conséquences sur les factures?
Nous disons une chose très simple. Le nucléaire ne peut pas couvrir...
Le mix énergétique, comme on dit.
Le nucléaire ne peut pas couvrir l'ensemble de la demande en électricité. Les prochains réacteurs verront le jour d'ici à 2038, donc il y a encore du temps et on a besoin de diversifier ce mix. On s'appuie sur les énergies renouvelables et on s'appuie sur le nucléaire. Toutes les études, Apolline de Malherbe, scientifiques, je pense au GIEC, je pense à RTE, expliquent qu'on a besoin des deux. Et donc, encore une fois, le choix, il est assez simple. Est-ce qu'on veut continuer à dépendre du GNL de Monsieur Trump ou du gaz de Monsieur Tebboune, ou est-ce qu'on veut produire chez nous et développer des filières françaises?
Est-ce que vous donnerez le chiffrage précis qui vous a conduit à un tel plan énergétique?
Bien sûr, et en fait, ce chiffrage, il est connu.
Vous avez dit que les chiffres du RN étaient bidons.
Oui, et je vous explique pourquoi.
Mais pourquoi vous donnez pas les vôtres?
Monsieur Tanguy parlait de 300 milliards sur votre plateau, c'était je crois la semaine dernière.
Vendredi.
Dans ces 300 milliards, il y a 200 milliards qui sont de la rénovation, de l'adaptation au changement climatique des réseaux. Il faudra de toute façon le faire. Et c'est pas 200 milliards sur une année, c'est un investissement sur 20 à 30 ans. Donc il faut voir de quoi on parle. Quant aux 100 milliards qu'il alloue aux énergies renouvelables, c'est beaucoup plus compliqué à chiffrer que ça, puisque ça dépend des structures de prix, ça dépend de l'évolution du prix du marché.
Mais vous-même, vous avez bien fait des chiffrages. Enfin, vous-même, je veux dire, le gouvernement a bien fait des chiffrages.
Évidemment.
Pour en arriver à cette...
Je vous en donne par exemple un dont Monsieur Tanguy ne parle jamais, c'est le coût des futurs EPR2, des nouveaux réacteurs. Vous savez qu'on a pour projet d'en construire 6. Le premier, d'ailleurs, la construction du premier à Penly a déjà démarré. EDF estime ce coût à 70 milliards. Voilà. Mais c'est un investissement.
Est-ce que c'est crédible parce que les EPR ont quand même, jusqu'à présent, toujours débordé de leurs coûts?
C'est un coût qui a été mis à jour, réactualisé, si je puis dire, il y a encore quelques mois de ça. Donc, c'est pas moi qui fais ce calcul. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on est sur des investissements et il faut regarder la durée de ces investissements et la durée sur laquelle on étale ces coûts. On parle de, encore une fois, 15, 20, 30 ans.
Vous avez peut-être entendu les mots de Patrick Pouyanet, le patron de Total, emblématique patron français. Il dit il y a une forme de ras-le-bol des patrons français et je pense qu'on va l'exprimer. Vous faites face de plus en plus à une fronde des patrons français. Vous l'imaginiez ça, vous, macroniste?
Écoutez, si M. Pouyanet fait référence au budget, moi je redis ce qu'est la réalité de ce budget. La fiscalité pour les entreprises...
Il parle effectivement du budget, il dit 2000. Ce n'est pas bien, je voudrais reprendre ses mots exacts, il dit ce n'est pas bien qu'à la fin, la variable d'ajustement du budget de la France, ça soit systématiquement la taxation des grandes entreprises. Il parle d'une surtaxe et d'une énorme erreur.
Alors, ce n'est pas une variable d'ajustement. Un budget, c'est faire des choix. Quels choix avons-nous fait? On a fait le choix d'une stabilité fiscale pour les entreprises entre 2026 et 2025. Les entreprises ne verront pas leurs impôts augmenter. Les commerçants qui nous écoutent, ceux qui sont à la tête de TPE, de PME, d'ETI, doivent savoir ce matin que leurs impôts n'augmenteront pas. Et ensuite, un budget, c'est faire des choix. Est-ce qu'on doit ou pas investir pour le réarmement militaire quand on voit ce qui est aujourd'hui le contexte international? Je pense que la réponse est oui. Est-ce qu'il fallait ou pas abandonner la suppression de 2 jours fériés qui n'étaient pas comprises par les Françaises et les Français? Je pense que la réponse est oui. Et donc tout ça nous amène à faire des choix. Et oui, il y a un effort exceptionnel qui est demandé à 300 grandes entreprises. Est-ce que c'est idéal? Non. Est-ce qu'on aurait aimé faire autrement si on avait eu une majorité absolue? Probablement. Mais en tout état de cause, on a construit ce budget avec encore une fois des compromis. C'est un budget qui appartient à l'Assemblée nationale, avec laquelle le gouvernement a travaillé et qui a amené les uns et les autres à faire des choix. Moi, je peux aller aujourd'hui dans ma circonscription en disant aux commerçants que leurs impôts n'augmenteront pas et je peux regarder mes électeurs droit dans les yeux en leur disant que leurs impôts n'augmenteront pas non plus.
Remaniement, cette semaine, vous restez, hein.
Écoutez, si vous avez l'information, moi je ne l'ai pas.
Au moment où on se parle, vous n'avez pas envie de partir, en tout cas.
Écoutez, moi je dis une chose simple, il faut des femmes et des hommes, au gouvernement mais aussi ailleurs, aussi dans les partis politiques, qui travaillent aux urgences des Français pour aujourd'hui et qui ne se concentrent pas uniquement sur la présidentielle dans 14 mois. Voilà. Du reste, je n'ai pas d'informations à vous donner. Vous savez que c'est la prérogative de deux personnes, le président de la République
et Amélie de Montchalin, le Premier ministre. De fait, partiront d'ici la fin de la semaine, semble-t-il. Vous confirmez au moins le timing?
Oui. D'ici au 22.
D'ici au 22, puisque ce sera le début de la période de réserve
pour les municipales.
Pour les élections municipales. Et donc, ce serait important que ce soit fait avant pour que des expressions puissent être prises par ceux qui viennent notamment les remplacer. Philippe Juvin, au budget, ça vous paraît crédible?
Écoutez, encore une fois, je n'ai pas d'informations.
Qui est actuellement rapporteur du budget à l'Assemblée.
J'ai beaucoup de considération pour Monsieur Juvin, qui est par ailleurs un de mes collègues députés des Hauts-de-Seine. Mais je n'ai pas plus d'informations à donner. Je ne vous fais pas de la langue de bois. Je n'ai juste pas d'informations. C'est la prérogative du président et du Premier ministre.
Et sur la question, vous l'avez dit à l'instant, des partis, quand vous dites qu'il vaut mieux parfois qu'il y ait aussi au sein des partis ceux qui vont mener les batailles. Toute la question, on sait quand Sébastien Lecornu est arrivé au pouvoir, il a dit qu'il ne voulait pas dans le gouvernement des gens qui aient en gros la tête ailleurs, c'est-à-dire notamment à la présidentielle. Quand vous entendez les mots de Gérald Darmanin, qui ne se cache pas d'avoir de l'ambition pour 2027, quand vous voyez de plus en plus, y compris autour du gouvernement, quelqu'un comme Gabriel Attal qui commence à parler aussi de ses ambitions, Édouard Philippe, les primaires à droite, ça commence à faire beaucoup de monde quand même qui pense à 2027.
Oui, alors les ambitions des uns et des autres sont légitimes. Moi, j'ai toujours tenu une position très claire. Il faut que les uns et les autres se parlent et il faudra que les uns et les autres, candidats, déclarés, putatifs, s'entendent. On parlait de la dangerosité de la France insoumise tout à l'heure. On aurait pu parler de celle du Rassemblement national. Moi,
vous avez d'ailleurs dit voilà, que vous ne vouliez pas l'un ou l'autre.
Je refuse de laisser aux Français le choix d'un second tour entre la France insoumise et le Rassemblement national, entre Monsieur Bardella ou Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon.
Mais donc pour ça, veut ça dire qu'il faut un candidat d'où à où
il faut un candidat unique dès le premier tour de la droite et du centre, c'est mon avis. Et donc il faut que de Renaissance aux Républicains, de Renaissance à ceux qui refusent l'alliance avec le Rassemblement national, en passant bien sûr par le MoDem, en passant bien sûr par Édouard Philippe, les uns et les autres se mettent dans une même pièce.
Mais ça va jusqu'où? Ça veut dire Bruno Retailleau, Édouard Philippe?
Sans quoi on laissera aux
Bruno
Français
Retailleau,
le
Raphaël
choix
Luchmann.
D'un second tour entre Monsieur Mélenchon et Monsieur Bardella.
Je vous pose la question, ça va d'où à où?
Mais ça va de ce qui est pour moi aujourd'hui, en tout cas ce qu'on appelait hier le socle commun, qui est cet espace de la droite et du centre dans lequel on gouverne depuis 18 mois, depuis la dissolution avec Michel Barnier et avec celles et ceux qui ont été ou qui sont au gouvernement. Nous avons des ministres LR aujourd'hui au gouvernement. C'est bien la preuve que précisément pour protéger la France de la France insoumise et pour protéger la France demain du Rassemblement national, on arrive et on arrivera, en tout cas je l'espère, à s'entendre.
Merci beaucoup Maude Brigeon d'avoir répondu à mes questions ce matin. Porte-parole du gouvernement, il est 8h47 et vous êtes bien sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Ce matin, Maude Brigeon, porte-parole du gouvernement, était mon invité. Emmanuel Macron tenait à lui dire un mot.
Oui, bonjour. Même sans mes lunettes, vous voyez, ça marche.
Oui, ça marche pas mal.
Vous voyez, ça s'appelle le charisme. Voilà. Vous pouvez pas comprendre autour de cette table. Écoutez, Maude Brigeon a parlé insécurité, je l'ai entendu. Elle a parlé violence, elle a parlé budget, mais elle n'a pas abordé tous les sujets. Elle a oublié un sujet le plus important. J'ai vendu 114 avions Rafale aux Indiens. Hein, et vous voyez, dès que je mets des lunettes de Top Gun, ça, voilà. Paf, je vends 114 Rafales. Et encore, je serais arrivé, la chemise ouverte, hein, sur un bronzage impeccable, je refourguais 40 centrales solaires aux Indiens.
C'est sûr. Vous êtes en route pour une visite d'État de 3 jours en Inde.
Oui, écoutez, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de l'Inde et de leur culture. Souvent, les Français, je les entends se plaindre d'être des vaches à lait, mais en Inde, ce seraient des vaches sacrées. Donc, faire payer l'impôt aux Français, c'est respecter les Français, c'est même quelque part les honorer.
Ah oui, on l'avait pas fait comme ça. Merci, monsieur le président. Maude Brigeon, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Tiens, vous revenez là, sur le remaniement à venir, peut-être?
Oui, tout à fait. Nous avons entendu les Français souhaitent avoir au gouvernement des personnalités d'expérience, des poils. À ce titre, pour remplacer Rachida Dati et Amélie de Montchalin, nous avons pensé au gouvernement à des ténors de la politique, David Lamiel et Catherine Pégard.
Catherine Pégard, vous voulez dire, l'ancienne administrative du château de Versailles.
Voilà, Pégard, c'est ça, voilà. Ah. Ouais, voyez, vous la connaissez, vous voyez. Elle sera donc nommée à la culture, bien sûr, dès que Madame Dati aura décidé de son propre gré de quitter ses bureaux. Je lui ai d'ailleurs, à ce titre, envoyé un message ce matin pour lui suggérer donc d'entamer son déménagement au ministère de la Culture. Et très réactive, Rachida Dati m'a répondu, elle m'a invité à me faire cuire le cul sur une grille de four. Donc, vous voyez, ça avance, le dialogue n'est pas rompu avec.
C'est bon. Merci, Maude Brigeon. Tout de suite, on retrouve Pascal Pro pour les titres de l'actualité. Bonjour, Pascal.
Eh oui, bonjour, Apolline.
Vous vous sentiez mieux chez nous, hein, finalement.
Ah, bah oui, si, tout à fait.
Pas bien chez vous, hein.
Bonjour,
ça vous embête, hein.
Ma collègue Maude Brigeon. Eh oui, nous faisons le mode métier avec Maude Brigeon. Ah, oui. Maude Brigeon porte la parole du gouvernement actuel. Et moi, chaque jour, vous le savez, sur CNews, je porte celle du gouvernement qui suivra. Ah, oui. Merci, bien sûr. Nous en parlions avec Thibaut Texer. Rien n'est encore joué. Aujourd'hui, on ne sait pas qui dirigera ce gouvernement. Le suspense, est-ce que ce sera Jordan ou Marine?
Ah oui.
Allez, c'est parti pour les titres. On commence bien sûr par un grand cocorico avec notre spationaute Sophie Adenau que l'on a envoyée dans l'espace. Que c'est beau, que c'est beau. Même si je ne me cache pas qu'à l'avenir, j'espère que ce sera plutôt des Soraya, des Malika, des Aïssatou que nous enverrons loin, très loin. Et puis vendredi, c'était les victoires de la musique. Le service public a donc récompensé, attendez, je lis sur ma fiche, Mega BBL et Dizzy's, voilà. Voilà. Non, mais je ne connais pas, pardon, Apolline, je ne connais pas. Oui, même dans la musique, vous voyez, c'est le grand remplacement, pardon. Excusez-moi, je m'emporte. Alors qu'on attend de grands artistes à honorer, les Michel Sardou, Mylène Farmer, les Daniel Guichard, Alain Souchon. Non, pas Alain Souchon, non, pardon. Pas Souchon.
Ah bon.
Heureusement, il y a eu un moment magique, c'est vrai, un moment suspendu quand Nikos Aliagas a remis à Nana Mouskouri, la grande Nana, une victoire d'honneur pour ses 91 ans. Nikos, de grâce, parlez-nous, refaites-nous vivre, parlez-nous de ce moment suspendu. Ouais, salut Apolline, salut à tous, salut les loups. Quel honneur pour moi, c'est vrai, d'avoir célébré cette artiste majuscule, Nana, la grande Nana Mouskouri, 91 ans, 70 ans de carrière. Ça m'a bousculé. Oui, bousculé. Moi qui
À l'habitude, à la Starac, de célébrer plutôt des artistes qui font 8 semaines de carrière. Nana, c'est quoi ? Nana, ce sont des chiffres. Au-delà de l'âme qu'elle porte, c'est 160 albums, 2000 chansons et une paire de lunettes qui a sa signature. Un Velux devant chaque cueil. Mais l'autre star de la soirée, c'était Théodora, avec 4 récompenses. Sa musique est un mélange d'hyper-pop, de jazz, fusionné à du rap-rock et à de la funk afrobeat sur fond d'hyper-house, reggae-pop.
Oui.
Elle est la seule à pratiquer cette musique. Et c'est génial. Comme ça, elle est sûre de gagner au moins dans une catégorie. Bien joué, bravo à toi, Théodo, à toi, Po.
À moi, Po. Merci, Nico. Nikos, on va parler rugby avec le sélectionneur du 15 de France. Bonjour, Fabien Galthié. Quelle belle victoire hier dans le tournoi des Destinations contre le Pays de Galles.
Je tiens à féliciter nos joueurs. Au-delà du résultat, la qualité du rugby proposé, la variété dans le jeu, tu vois, l'impact, il y a eu de la puissance, il y a eu de la force, de l'intensité. On a fait un très bon match, un match physique, un match référence. Je dis match parce que quand tu gagnes 54-12 contre l'adversaire, c'est que, en l'occurrence, les Gallois, c'est que tu as vraiment mâché, tu vois. Tu l'as déchiqueté, mangé tout cru.
Qu'est-ce que vous retenez particulièrement de ce match, Fabien Galthié ?
Bon, je retiens la belle prestation d'Antoine, l'implication également de Fabien, l'ouverture du score d'Emilien, le jeu au pied de Thomas, les belles combinaisons entre Louis, Charles, Julien, Théo, avec Christelle, Valentine et Marie.
On ne connaît pas tous les prénoms des joueurs, hein. Ce serait peut-être plus simple de les appeler par nom de famille, non ?
Non, je te rassure, moi-même, je ne les connais pas moi-même.
Ah, oui.
Le rugby... Le rugby, c'est une grande famille, tu vois. Dans la famille, tu t'appelles par le prénom, tu vois. En tout cas, merci au président de la République, je tiens à le dire, qui nous a toujours soutenus. Et ce matin, il m'a envoyé un message. Bravo, Fabien Galthié, votre 15 de France, pour cette belle victoire face aux Gallois réfractaires.
Ah, les Gallois réfractaires, je l'aime. Merci beaucoup.
J'aime bien le jeu.
On parle maintenant des JO de Milan Cortina. Nelson Monfort, tiens, est avec nous. Bonjour. Grande première dans le ski, c'est un Brésilien.
L'association
de ski qui a gagné le Slalom géant.
Oui, tout à fait, ma chère Apolly. Effectivement, c'est cet athlète brésilien a dévalé la piste à plus de 100 km/h en chemise à fleurs, pardonnez-moi, en jonglant avec un ballon, tout en sirotant une caipirinha sur une musique de samba. Pardon, c'est une médaille d'or, certes, pardon, ma chère Apolly, mais est-ce vraiment du ski ? On peut se poser la question légitimement.
Mais pourquoi vous dénigrez cette médaille d'or ?
Mais enfin, Pauline, bordel de merde, mais tu as loupé un épisode ou quoi ? Je ne couvre pas ces JO Milan Cortina alors que j'ai pourtant suivi 12 Olympiades. France Télévisions m'a abandonné comme une vieille chaussette like a old socks. Je suis en ce moment depuis mon canapé, I'm live on my poltrone et sofa. Alors ne comptez pas sur moi pour vous dire que ces JO sont fantastiques. Esta Olympica, c'est una mierda.
Tous les jours, 8h50 et à tout moment en podcast. Dans un instant, les GG, quel est le programme ?
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les Grandes Gueules se préparent à débattre de l'actualité à partir de 9h sur RMC et RMC Story. On va bien sûr revenir sur la mort de ce jeune homme de 23 ans, Quentin, à Lyon. Avec cette question, l'ultra-gauche est-elle responsable de sa mort ? Débat avec Charles Consigny, notre avocat, la prof d'histoire géo Barbara Lefebvre et le cheminot Bruno Poncet. A tout de suite.